Le site du Mont-Blanc est un endroit où on gaspille énormément d'objets, mais également des animaux et très vraisemblablement des êtres humains.
Certaines découvertes peuvent laisser penser que l'anthropophagie ou le cannibalisme a eu lieu au Mormont.
Monumental.
Le site du Mormont a été découvert en 2006.
Sur la première.
C'était la surprise et l'étonnement permanent.
L'étendue de la surface à fouiller était énorme.
Nul d'entre nous n'était préparé pour une telle fouille.
C'est à la fois le profane et le sacré qui se mélangent dans ce qui pourrait être une espèce de grande place publique pour les réunions politiques.
Monumental. Joanne Ducey.
À mi-chemin entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, voici la colline du Mormont, un lieu où l'on trouve une carrière de calcaire industriel, mais pas que, puisque c'est là qu'en 2006, un site archéologique a été découvert. Ossements d'humains, d'animaux, vaisselle, outils, parures, monnaies, meules à grains, les trouvailles sont nombreuses et elles étaient toutes disposées dans des centaines de fosses. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'il est remarquable qu'au XXIe siècle, une telle découverte soit possible. Pour nous accompagner aujourd'hui et pour nous parler de ce lieu unique dans le monde celtique, bienvenue à notre invité. Alors bonjour, je m'appelle Julia Genekesi, je suis donc directrice adjointe du musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne et je suis aussi commissaire de l'exposition Sacré Mormont, enquête chez les Celtes.
Nous allons donc parler du Mormont aujourd'hui dans Monumental. Là nous sommes au pied du Jura.
Oui, effectivement, la colline du Mormont est un promontoire rocheux qui d'ailleurs est relié à la chaîne du Jura. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle domine de 150 mètres la plaine de l'Orbe au nord et la plaine de la Venoge au sud. Et au niveau des bassins hydrographiques, on a un phénomène qui est très particulier, c'est-à-dire que si vous faites tomber une petite goutte d'eau du haut du Mormont, cette goutte d'eau ira soit vers le Rhin au nord, soit vers le Rhône au sud et donc la Méditerranée.
Les derniers militants barricadés sur un toit, cernés par des policiers lourdement équipés. L'épilogue d'une journée de lutte entre zadistes et forces de l'ordre.
Dès ce moment, toute personne présente peut être poursuivie pour insoumission à une décision de l'autorité.
Ce site du Mormont a fait la une de l'actualité, c'était en 2020, avec l'installation d'une ZAD.
C'est vrai, oui, la première zone à défendre de Suisse a été particulièrement importante et encore aujourd'hui sous les feux de l'actualité. Dans le cadre de l'exposition, on s'est beaucoup interrogé sur qu'est-ce que le Mormont ? Et c'est vrai que pour de nombreux Suisses notamment, ça représente donc cette première zone à défendre. Mais pour d'autres, le Mormont recouvre d'autres réalités. C'est aussi, bien évidemment, quand on tape Mormont sur Internet, on tombe sur le groupe religieux. C'est aussi une très grande famille de Game of Thrones.
Mais la maison Mormont se souvient. Le Nord se souvient. Nous ne connaissons d'autre roi que le roi du Nord et son nom est Stark.
Mais pour les archéologues, Mormont correspond à un site archéologique extrêmement important du second âge du fer.
En quelques mots, petit rappel de ce qu'est l'âge du fer.
L'âge du fer est une période qui, comme son nom l'indique, voit la généralisation de la métallurgie du fer. C'est une période qui s'étend entre 800 avant Jésus-Christ et à peu près 50 avant Jésus-Christ. Elle est divisée en deux, le premier âge du fer et le second âge du fer qui nous intéresse plus pour le Mormont. Second âge du fer qui, lui, s'étend entre 450 et 50 avant Jésus-Christ. C'est une période assez importante, notamment pour l'archéologie, parce que on voit la structuration des sociétés, on voit le développement des échanges, on voit des territoires qui s'organisent, des moyens de production qui s'améliorent, mais ça reste quand même assez complexe encore aujourd'hui pour nous d'avoir une idée précise de ce second âge du fer, parce que les Celtes n'écrivaient pas. Nous n'avons pas de sources antiques qui sont directement rédigées par ces populations celtiques qui étaient établies dans nos régions. Ce sont les auteurs grecs et romains qui viennent nous donner en fait leur impression, leurs avis sur ces coutumes celtes. Et c'est pour cette raison que l'archéologie demeure aussi importante en fait pour notre période chronologique.
L'histoire de ce site débute en 2006 avec sa découverte. Comment ça s'est passé ? De quelle manière cette découverte a-t-elle été effectuée ?
Le site a été découvert, oui, en 2006, lors d'une nouvelle phase d'extension de la carrière. Parce qu'effectivement, le Mormon est exploité pour son calcaire depuis 1953. Quand le service archéologique de l'État de Vaud a été informé, il y a des sondages exploratoires qui ont été mis en place. Et ces sondages se sont révélés positifs sur le potentiel archéologique du site. Donc l'archéologie cantonale a décidé alors de mandater l'entreprise Archéodonome Investigation Archéologique SA pour réaliser des fouilles. Alors ces fouilles au départ, elles devaient durer seulement 2 mois. À l'été 2006, et finalement elles ont duré 4 ans et demi entre 2006 et 2016. Les archéologues ont eu la chance de pouvoir fouiller 8 hectares sur la colline du Mormon, mais à l'échelle du site, c'est quand même qu'une toute petite fenêtre d'exploration.
Que vont découvrir les archéologues ?
Cela a été une très grande surprise. Les archéologues ont découvert environ 600 structures, mais près de 250 fosses. Ce sont ces fosses, en fait, qui demeurent un peu les stars du site archéologique du Mormon. Ce sont elles vraiment qui nous ont le plus posé de questions sur la nature du site. Tout simplement parce que ces fosses, donc ces creusements, c'est un peu intéressant de venir discuter de ça avec vous, Joanne, aujourd'hui, parce que d'habitude, on voit de l'architecture, des choses en élévation, et sur le site du Mormon, nous avons des trous. Donc ces creusements contenaient, en fait, des milliers d'objets, de toutes sortes, de toute nature. Les Celtes étaient venus à la fin donc du 2e siècle avant Jésus-Christ, déposer des objets, faire ses dépôts dans ces fosses. Plusieurs niveaux de dépôt qui, à chaque fois, sont scellés par une petite couche de terre. Et donc, ils sont venus déposer ces objets dans ces fosses, des objets d'une qualité exceptionnelle.
Vous parliez de la nature du site, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un sanctuaire, un lieu de culte, un lieu de rassemblement ?
En 2006, quand les archéologues ont découvert le site, tout de suite, cette notion de sanctuaire est sortie. Et c'est vrai qu'il y a des mises en scène extrêmement frappantes dans le cadre des dépôts de ces objets dans les fosses. On voit qu'il y a quelque chose de rituel, on le sent en fait, ça a été perceptible dès le départ. Mais finalement, avec l'étude du site, avec des analyses des différents experts, on est un petit peu revenu sur cette vision-là d'origine, parce que la colline du Mormon ne correspond pas tout à fait, pour l'instant, à ce que l'on connaît des autres sanctuaires de la période celtique. Donc, cette interprétation du sanctuaire, elle a évolué. Aujourd'hui, on pense plutôt à un lieu de rassemblement, dans lequel, bien évidemment, les rituels sont importants, un lieu de rassemblement de la communauté alentour, qui venait peut-être se réunir pour célébrer ensemble les différents événements qui ponctuaient la vie de la communauté à l'époque.
Cannibalisme en terre vaudoise. Des pelleteuses exhument un exceptionnel sanctuaire vaudois. Quand nos ancêtres sacrifiaient hommes, bœufs, chiens et meules. Des corps d'Helvètes rôtis ont été exhumés des fouilles du Mormon. Nos ancêtres celtes étaient des coupeurs de têtes. Panoramix, nous a-t-il dit la vérité sur les druides ?
Cette découverte du site archéologique du Mormon, elle va bien évidemment faire la une des médias.
Et il y a énormément de presse, tout le monde a sorti des gros titres comme...
Des titres accrocheurs.
Oui, des titres croustillants en lien avec le cannibalisme. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand je fais la visite guidée dans l'exposition, c'est souvent des questions qui reviennent. C'est des thématiques qui intéressent beaucoup les gens. Ouais. Mais encore une fois, ces questions de cannibalisme sont très compliquées finalement à envisager parce qu'on a besoin de preuves concrètes. Et actuellement, sur le site du Mormon, sur les différents vestiges humains qui ont pu être mis au jour, nous n'avons pas de traces de ce cannibalisme.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui de quand date précisément ce site ?
Grâce à l'étude des spécialistes, qui sont tous venus au chevet du Mormon, et ils sont nombreux, donc on a donc la chance d'avoir une datation assez précise pour ce site, qui est datée entre 110 et 80 avant Jésus-Christ, donc de 2100 ans à peu près. C'est la parure, notamment les fibules, ces objets qui accrochent en fait, qui sont un peu comme des épingles à nourrice de l'époque. Voilà, la typologie de ces fibules nous permet d'approcher au plus près la chronologie du site.
Vous le disiez tout à l'heure, on parle de plus de 600 structures archéologiques découvertes sur ce site.
Oui, il y a près de 600 structures. On passe d'ailleurs du néolithique au premier âge du fer, jusqu'à l'époque romaine, le Moyen-Âge. On a énormément de choses de périodes différentes. Mais ce sont vraiment les fosses du second âge du fer, donc de cette période qui est située entre 450 et 50 avant Jésus-Christ, qui sont les plus importantes sur le site du Mormon. Ce sont elles qui définissent vraiment la nature du site.
Ces fosses, creusées de manière intentionnelle, sont souvent creusées d'ailleurs jusqu'à la roche et elles ne sont pas toutes identiques.
Elles sont toutes uniques. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité du site archéologique. Elles sont souvent cylindriques. Elles sont leur diamètre varie entre 30 cm, 1 m 40, alors que leur profondeur peut aller jusqu'à 5 m 15. Et c'est vrai que certaines, à peu près 10% d'entre elles, les Celtes sont descendues jusqu'à la roche, ont creusé la roche pour aller déposer leurs objets.
Vous parlez d'objets déposés, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il s'agisse simplement d'un lieu où finalement étaient réunis toutes sortes de déchets ?
Évidemment, les archéologues y ont pensé, mais c'est vrai que les mises en scène sont tellement soignées. Quand vous avez une fosse dans laquelle on rencontre un poêlon en fer, donc une espèce de grande louche destinée à la cuisson des aliments, posée à l'envers, avec à côté des lingots en fer, une jatte en céramique, avec encore un bassin en bronze, lui aussi posé à l'envers, le tout recouvrant une situle, donc un seau en bronze destiné au service du vin, dans lequel étaient disposées des haches, on ne peut pas imaginer qu'il s'agit vraiment d'une espèce de poubelle. Les mises en scène sont si soignées, l'interprétation du rejet ne peut pas être acceptée pour toutes les fosses. Bien évidemment, certaines d'entre elles sont des restes de repas, d'énormes banquets. Nous avons 87 amas culinaires sur le site où se mélangent toutes sortes énormément de restes fauniques qui prouvent que les gens venaient se réunir sur le Mormon pour manger ensemble, peut-être célébrer ensemble des événements qui nous restent encore aujourd'hui un peu difficiles à interpréter. Donc effectivement, certaines fosses sont un petit peu des restes de repas, mais d'autres ne peuvent clairement pas être interprétées comme des poubelles.
Julia Genekesi, vous êtes notre invitée aujourd'hui dans Monumental et je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes.
Avez-vous mesuré le temps ? Avez-vous mesuré le vent ? Avez-vous mesuré la nuit ? La vie ?
Émilie Loiseau et Blind Seats.
Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nous rêve aussi. Je veux faire l'amour dans les champs. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en nous.
Viens avec
Aujourd'hui dans Monumental, le site du Mormon. Sur ce site du Mormon, dans ses fosses, quels ont été les objets découverts ?
La qualité des objets sur le site du Mormon est exceptionnelle.
Julia Genekesi, directrice adjointe au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et conservatrice en chef des monnaies.
On y rencontre beaucoup de vaisselles métalliques, des objets d'artisans, des objets du quotidien, de la céramique, mais aussi des vestiges humains, un petit peu moins que les restes fauniques, c'est-à-dire les squelettes d'animaux qui sont extrêmement nombreux sur le site.
Certains objets, d'ailleurs, semblent avoir été jetés en haut de la fosse.
Oui, tout à fait. On le voit très bien quand on effectue la fouille au niveau des différents états de conservation des objets que l'on met au jour. On sait tout de suite s'ils ont été jetés depuis le haut ou s'ils ont été déposés soigneusement tout en bas de la fosse.
Oui. Donc des choses sont jetées du haut de la fosse, puis d'autres extrêmement bien mises en scène.
On a par exemple, dans une des fosses, une jument de 12 ans. Qui a été poussé en fait depuis le haut. On le voit très bien ça aussi, l'archéozoologue Patrice Méniel peut très bien en fait le visualiser quand il effectue la fouille. On a aussi des céramiques qui ont été jetées depuis le haut, et ça on le sait aussi très bien parce qu'on a des tessons de céramique qui sont dans une fosse, alors que d'autres tessons de la même céramique sont dans une autre fosse à plusieurs dizaines de mètres de là. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi concernant la gestion de l'espace des Celtes, parce qu'on imagine que peut-être les fosses, on pouvait les visualiser en fait à l'extérieur du site, peut-être qu'elles étaient marquées au sol afin qu'on ne recreuse pas au même endroit et qu'on puisse effectivement réaliser certains dépôts dans différents endroits en même temps.
L'intérêt du Mormon, c'est d'avoir livré environ 250 fosses qui recelait des restes d'animaux essentiellement domestiques, qui se présentent sous des formes très diverses, très variées, qu'on peut schématiser en deux grandes catégories. D'un côté, des restes d'animaux consommés au cours de grands repas, et de l'autre, des restes d'animaux non consommés. Alors, tous ces restes sont enfouis dans les fosses et se présentent sous des formes très variées, soit d'amas d'ossements découpés, cuits et donc qui relèvent de la consommation, dans lequel on trouve des restes de toutes les espèces présentes, des bœufs, des cochons, des moutons, des chèvres, des chevaux et quelques chiens. Et puis, de l'autre côté, des restes d'animaux non consommés, qu'on peut séparer également en deux catégories, qui sont celles des cadavres entiers, d'animaux frais qui sont jetés dans des fosses, et puis des squelettes ou des carcasses décomposées qu'on retrouve amassées, parfois en grand nombre, dans certaines fosses. Les animaux, en fait, on en a découvert environ 480. On ne connaît pas beaucoup d'endroits où on mêle à la fois des restes d'animaux non consommés et d'animaux consommés des mêmes espèces. C'est-à-dire que sur certains sites gaulois, par exemple, le cheval n'est pas consommé. Ici, tout est à la fois possiblement consommé ou non consommé. C'est l'une des grandes caractéristiques de ce site.
C'était Patrice Méniel, il est archéozoologue au CNRS. Julia Genekesi, je reviens vers vous. Concernant ces animaux, certains ont été consommés et d'autres non.
C'est ce qui fait la particularité du site. Et c'est vrai que c'est la multitude des traitements qui ont été réservés aux animaux comme aux humains. Pour les animaux, c'est vrai qu'on a, dans les amas culinaires qu'on a pu étudier sur le site du Mormon, on voit très bien que certains d'entre eux ont été consommés. Et ils sont extrêmement nombreux. On a des fosses sur lesquelles, dans laquelle, par exemple, on a 5 bœufs, le squelette de 5 bœufs, donc ce qui constitue des énormes quantités de viande pour le banquet correspondant. Et parallèlement à ça, on a des fosses dans lesquelles, donc là on parle plutôt dans ce cadre-là de carcasses ou de cadavres, où les animaux ont été jetés depuis le haut, ils ont été déposés en fait en entier. Ce qui pose beaucoup de questions parce que d'habitude on n'est pas souvent confronté à cette idée de gâchis, notamment pour les périodes voilà, qui sont les plus anciennes. Ouais.
Audrey Gallet, anthropologue.
On a des corps qui sont visiblement suspendus un temps au-dessus des fosses et qui tombent morceau par morceau dans la fosse au fur et à mesure qu'ils se décomposent. Là, on peine à imaginer que ce soit juste un déchet. Il y avait quelque chose qui visiblement a été fait pour être vu pendant un certain temps.
Dans ces fosses, des restes humains ont aussi été découverts. Ce sont quoi ? Des corps complets ou des parties de corps ?
Alors, il y a tout, c'est ça. Voilà. Sur le Mormont, les traitements réservés aux humains nous interpellent encore beaucoup aujourd'hui. On a du mal, nous, avec notre regard de contemporain, à prendre suffisamment de recul pour essayer de comprendre quelles étaient les idées qui se cachaient derrière ces gestes. On a deux personnages qui semblent être quand même assez importants dans cette communauté qui ont été inhumés assis. Ils sont seulement deux. Sur le site du Mormon, on a entre 40 et 50 individus, hein, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux animaux. Mais donc deux inhumés assis, on a des corps aussi qui sont complets, on a aussi des demi-corps, on a aussi des os complètement isolés qui apparaissent en fait dans les amas culinaires dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc des corps ont été déposés de manière respectueuse ?
Certains, oui, bien sûr. Certains font vraiment penser à des sépultures telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Alors que d'autres, voilà, on a des têtes coupées, quatre, dont le traitement ne correspond pas du tout à celui que nous réalisons actuellement.
Les Celtes, parfois, pendant leur repas, organisent de vrais duels. Toujours armés dans leurs réunions, ils se livrent des combats simulés et luttent entre eux du bout des mains. Mais parfois aussi, ils vont jusqu'aux blessures. Irrités alors, si les assistants ne les arrêtent pas, ils en viennent à se tuer. Anciennement, quand on avait servi une gigue ou un jambon, le plus brave s'en attribuait la partie supérieure. Et si quelque autre la voulait prendre, c'était entre les deux prétendants un duel à mort. On en a vu qui, sur un théâtre, après avoir reçu de l'argent ou de l'or, ou même un certain nombre de cruches de vin, et garanti qu'ils se livreraient en retour, en faisaient la distribution à leurs parents ou à leurs amis, puis se couchaient tous de leur long sur leur bouclier, tandis qu'un autre, debout à côté, leur coupait la gorge d'un coup d'épée.
Poséidonios. Les guerriers celtes, ils avaient une certaine fascination pour les têtes coupées.
Les têtes coupées, on peut les trouver aussi bien dans les textes, les sources antiques, que dans l'iconographie et en archéologie. Et ça, c'est très intéressant pour nous, chercheurs, parce que c'est rare d'avoir autant d'indices qui peuvent nous permettre de mettre en évidence une pratique. Les sources antiques pour la période celtique, elles sont assez complexes parce qu'elles n'ont pas été écrites par les Celtes. Elles ont été écrites par les auteurs grecs ou romains qui nous donnent leur vision des choses. Donc Poséidonios, qui est un auteur grec qui lui vient en fait en 100 avant Jésus-Christ, il est sur place, on le sent, il est venu vraiment observer les pratiques et les coutumes celtes sur place et il nous explique un petit peu effectivement que les Celtes ont l'habitude de couper les têtes de leurs ennemis sur le champ de bataille pour ensuite les accrocher aux encolures de leurs chevaux et finalement les clouer sur leurs portes. Et ce phénomène-là, on en a des traces aussi dans les sculptures, notamment dans le sud de la France, et on a des traces aussi, certaines traces en archéologie. Mais pour le site du Mormon, c'est un petit peu particulier, parce que ces têtes coupées, elles n'évoquent probablement pas un phénomène guerrier. Parce que c'est vrai qu'on a énormément d'objets d'une diversité très importante sur le site du Mormon, mais nous n'avons pas d'armes, très peu.
Des corps présentent des traces de découpe et des traces aussi d'exposition au feu.
Oui, on imagine qu'il y a certains rites qui ont été réalisés sur le site qui peut-être viennent illustrer des textes antiques concernant ces pratiques d'exposition en feu. Mais là encore, c'est comme nous n'avons que la vision des auteurs grecs et romains pour interpréter ces pratiques un petit peu énigmatiques, c'est difficile d'être assez sûr de leur interprétation. Il faut toujours rester prudent.
Ce qui est certain, c'est que les animaux et les humains ont subi finalement le même traitement.
Exactement. Sur le site de Mormont, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Voilà, on a traité les animaux et les humains de la même façon. Mais est-ce que ça veut dire que les humains n'étaient pas traités de façon respectueuse ? Eh bien, ça, je ne le sais pas.
Cette découverte, en tout cas, dévoile une coutume très violente, en tout cas avec notre regard d'aujourd'hui.
Effectivement, je pense que c'était violent. Après, encore une fois, est-ce que le fait que ce soit violent ne traduisait pas un certain respect ou voilà des idées, des pensées qui allaient avec les coutumes de l'époque? Nous avons beaucoup de mal à interpréter ces gestes aujourd'hui avec notre regard de contemporain. On ne parvient pas à le faire. C'est des données qui sont trop sensibles pour nous. On a beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à tout ça, encore aujourd'hui.
Donc on n'en sait pas plus aussi sur la raison de ces pratiques. Est-ce que ce sont des offrandes humaines, des mises à mort? Ça, on n'a pas les réponses.
Non, c'est particulièrement complexe comme dossier. N'empêche que les têtes coupées ont quand même été déposées au fond des fosses. Il y a toujours encore cette notion de mise en scène qui revient. Donc le rituel est probablement très présent, même avec les vestiges humains.
Monumental, Joanne Ducey.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a très peu d'armes en fer et pourtant ce type d'objet, il est quand même emblématique de la figure du Celte et on en retrouve passablement dans les sanctuaires connus en Gaule.
Depuis les années 70, on connaît justement certains sanctuaires et ils ont défini le modèle du sanctuaire celtique, si vous voulez. Ils sont donc fouillés depuis une quarantaine d'années. Ils sont généralement datés d'une période peut-être un petit peu antérieure à celle du Mormon, ces sanctuaires, mais ils sont clairement marqués par la prédominance des armes. Ces armes, elles sont pliées, elles sont coupées, elles font toujours l'objet d'un traitement particulier. On sent que les Celtes venaient dans ces sanctuaires guerriers déposer leurs armes et ils faisaient en sorte que personne d'autre que la divinité, finalement, ne puisse les utiliser. C'est pour ça qu'ils pouvaient les casser. Mais c'est vrai que c'est vraiment un modèle sanctuaire celte qui est le seul modèle que nous connaissons actuellement. Et malheureusement, le Mormon ne correspond pas du tout à ce modèle-là. Les rituels sont très présents, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on imagine bien évidemment qu'il y a quelque chose de religieux caché derrière tout ça, mais cela ne correspond pas actuellement à l'idée que nous, chercheurs, nous faisons du sanctuaire celte.
Et c'est ça qui fait que le Mormon est unique ?
Exactement. C'est ce qui rend le Mormon unique. Et il y a aussi un phénomène très important dans le sanctuaire gaulois, c'est vraiment la limite entre le sacré et le profane. Cette limite, elle est matérialisée très fortement au niveau architectural. On a soit un fossé qui fait vraiment une frontière très forte entre les divinités et l'extérieur. Un fossé souvent avec une palissade en bois, peut-être des fois aussi avec des portes qui sont, d'un point de vue du paysage, extrêmement visibles de loin. Et aussi du Mormon, on n'a pas encore trouvé cette limite. Alors peut-être que les découvertes à venir vont nous permettre de voir les choses de manière différente, mais actuellement, on ne peut pas qualifier le Mormon de sanctuaire tel qu'on définit le sanctuaire celtique.
Mathieu Demierre, spécialiste des objets en métal.
Les objets du Mormon sont des objets du quotidien. On voit très clairement que ces objets-là n'ont pas été faits pour être déposé, mais ont bien servi avant d'être déposé. Et ce n'est pas l'objet en tant que tel qui a une qualité d'offrande ou de dépôt. C'est le geste qui fait la symbolique pour ces populations-là. Les dépôts du Mormon sont soignés. Il ne faut pas imaginer qu'on fait cela n'importe comment. On pense même que les gens descendent au fond des fosses et qu'on a des véritables mises en scène avec ces objets. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un chaudron dont on a enlevé les poignées, qui est déposé la tête vers le bas au fond de la fosse. On va, par exemple, même rajouter à côté de ce chaudron un fragment de bracelet qui sera posé à côté et ensuite on va remblayer le tout. Donc on a véritablement des gestes qui sont codifiés, qui sont voulus et qui sont soignés. On a plusieurs autres exemples très intéressants. Par exemple, un ensemble très compliqué dans lequel on va retrouver une situle qui est un des objets emblématiques du Mormon. Donc une situle, c'est un seau en métallique, en bronze, dans lequel on a pu mettre 7 haches en fer dont on a retiré le manche. On peut le dire parce qu'on retrouve encore les restes de bois minéralisé dans l'œil des haches. Et par-dessus cette situle, on a pu déposer un énorme poêlon en fer, des barres en fer et encore plein d'autres objets tout autour avant de remblayer le tout. Donc vous voyez qu'on a aussi des séquences de gestes très différenciés qui mènent à un seul ensemble dans une seule fosse. Et on peut avoir plusieurs ensembles par fosse. Et cela montre aussi la complexité de l'analyse des gestes et des pratiques qui sont réalisées sur le site du Mormon.
Sur ce site du Mormon, on parle de milliers d'objets exhumés. Dans quel état de conservation ?
Justement, les objets sont vraiment dans un état de conservation absolument exceptionnel. C'est ce qui confère aussi aux Mormons son caractère extrêmement original. Si vous allez sur d'autres sites de la même période ou un petit peu antérieure, plutôt des habitats, par exemple, des villes de l'époque celtique, vous avez les mêmes objets, mais qui sont souvent plus fragmentés. On voit qu'ils ont été utilisés d'une manière plus longue, plus forte. Sur le Mormon, les objets sont très bien conservés, même si certains avaient une vie avant d'être déposés dans les fosses. On le voit aussi parce qu'ils ont été réparés ou ils ont bénéficié d'un traitement particulier. Mais ils ont une vie avant d'être déposés. N'empêche que la plupart des objets sont vraiment bien conservés.
Julia Genekesi, vous êtes notre invitée aujourd'hui dans Monumental et je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes. Johnny Mitchell sur la première.
Sparkled on the ocean, eagle at the top of a tree. Those crazy crows, I was making a commotion. This land is home to me. I was talking to my neighbor, he said, when I get to heaven, if it's not like this, I'll just hop a cloud and I'm coming right back down here, back to this heavenly place. You see those lovely hills, they won't be there for long. They're gonna tear them down and sell them to California. Here come the toxic spills, miners poking all around. When this place looks like a moonscape, don't say I didn't warn you. Money, 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 money makes the trees come down. It makes mountains into molehills. Big money kicks the wide, wide world around. Blackberry in the orchard, at night he's in my garbage cans. It's getting so bold, but no one wants to shut up. He's got a right to roam this land. Trusting as coaches, but the white eyes lies. He's out of whack with nature, and look how far his weapons reach. Spirit of the water, give us all the courage and the grace to make genius of this tragedy unfolding. Genius to save this place.
Avec Julia Genekesi, directrice adjointe au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et commissaire de l'exposition Sacré Mormon, enquête chez les Celtes.
Mmh.
dès la découverte du site du Mormon, c'est-à-dire en 2006, des fouilles archéologiques vont être entreprises et parfois dans l'urgence.
Oui, surtout au début. Entre 2006 et 2008, les conditions de fouilles étaient particulièrement complexes parce que comme on n'avait aucune idée de l'existence du site archéologique sur la colline du Mormon, parce qu'il n'était pas référencé dans la carte archéologique du service archéologique cantonal. On n'avait non plus aucune mention. D'habitude, on a quand même certaines mentions dans les textes du 18e, des gens qui viennent se balader, qui trouvent des objets. Donc on sait déjà assez clairement, assez précisément où se situent la plupart des occupations archéologiques du canton de Vaud. Et pour le Mormon, ce n'était pas le cas. Du tout. Donc la découverte du site a été une très grande surprise. Et comme les fouilles au départ étaient seulement prévues pour 2 mois, et que finalement elles ont duré 4 ans et demi entre 2006 et 2016, au début c'était très compliqué pour les archéologues de réussir à fouiller dans l'urgence toutes les fosses qui sont apparues très vite finalement.
Parce que la carrière continuait de fonctionner.
Oui, exactement. Oui, la carrière continuait de fonctionner. Et donc, les machines tournaient autour des archéologues et on n'avait pas la possibilité d'arrêter, en fait, le fonctionnement de la carrière. Donc, il fallait que les gens réussissent à travailler dans des conditions particulièrement pénibles.
Dans la poussière.
Oui, dans la poussière et puis même dans le froid, parce que les fouilles, on a eu la chance de pouvoir déjà, en 2006, poursuivre les fouilles durant l'hiver, donc dans des conditions climatiques très compliquées. Oui, et ça, c'était la toute première période. Après, les conditions se sont un peu améliorées, notamment en 2009, en 2010. Les campagnes de fouilles étaient clairement intégrées, en fait, dans les nouvelles phases d'extension de la carrière. Donc ça a changé complètement.
Il y avait une planification.
Exactement, ça a changé complètement le fonctionnement de l'archéologie sur le site du Mormon.
C'était une grande surprise de découvrir ce site du Mormon. Les équipes archéologiques n'étaient pas forcément prêtes.
Non, elles n'étaient pas prêtes du tout.
Il fallait mettre tout un système en place.
Et toute une méthodologie liée à la fouille de la fosse, exactement, ça a été aussi assez compliqué. Surtout que quand vous commencez à fouiller une fosse, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y aura 3 dépôts? Est-ce qu'il y aura 5 dépôts? Est-ce qu'elle va faire 30 cm ou 5,15 m? Enfin, les quantités de mobilier qui peuvent sortir, les objets, ça peut être extrêmement... ça prend beaucoup de temps. Si vous tombez sur des vestiges humains, là encore, et ça nécessite une planification très importante. Il faut que le spécialiste soit là, à ce moment-là, disponible pour venir fouiller la fosse, etc. etc. Donc, au début, les archéologues de Cherque-Dounom ont pris le parti, en accord avec l'archéologie cantonale, de fouiller toutes les fosses qui étaient découvertes, d'une manière très rapide. Mais ils avaient envie, ils souhaitaient en fait ne pas passer à côté d'une découverte majeure, s'ils décidaient d'en sacrifier quelques-unes, ça c'était pas possible. Donc les premiers niveaux étaient décapés à la machine, et dès qu'on parvenait en fait sur les objets, c'était fouillé finement. Voilà. Mais c'était dans des conditions, encore une fois, qui étaient particulièrement dures pour ces premières années.
Difficile peut-être aussi sur le plan émotionnel.
Oui, très dur, parce que quand vous commencez une fouille, vous avez seulement 2 mois avec une équipe de 8 fouilleurs, et que vous vous rendez compte que le site sur lequel vous êtes est exceptionnel, sachant que au départ on pensait que c'était un habitat, donc une ville, et finalement les archéologues ont vu tout de suite que ça ne correspondait pas à ce cadre, ça ne correspondait à aucun cadre. Ça met tout de suite finalement assez bien en exergue cette fragilité, le doute en fait que les archéologues peuvent ressentir quand ils sont sur le terrain. Souvent on fait quand même des recherches archéo en ayant à l'esprit très clairement ce qu'on est en train de fouiller. Ça aide, ça donne une direction, on sait où on va et on peut poser des interprétations et mettre en place des méthodologies qui sont très particulières suivant le site qu'on fouille. Et sur le moment, ce n'était pas le cas.
Une fois que les objets arrivent au laboratoire, on va les traiter, les stabiliser et les dégager.
David Cuindet, conservateur-restaurateur, responsable du laboratoire du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire.
Quand on est en face d'un objet en fer archéologique, on a l'impossibilité de pouvoir identifier cet objet parce qu'il est couvert d'une gangue de corrosion. Pour pouvoir faciliter le travail d'identification à l'archéologue, on va effectuer un dégagement avec une microsableuse pour permettre de révéler la surface qu'il avait lors de la phase d'enfouissement.
Où se trouvent aujourd'hui tous les objets découverts sur ce site du Mormon ?
Alors tous les objets se trouvent actuellement au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire parce qu'on a la chance d'être les dépositaires légaux de toutes les trouvailles qui sont effectuées dans le canton de Vaud depuis 1912. Donc c'est nous qui avons la chance de conserver...
Vous avez trouvé la place ?
Oui, justement, on est encore une fois très chanceux parce qu'on bénéficie aussi de l'espace qui est situé à Lussan. L'ancienne centrale nucléaire qui est donc située à Lussan et qui est devenue le dépôt des abris et biens culturels de l'État de Vaud.
Et il a fallu faire un inventaire, étiqueter les choses.
Ah oui. Alors cet inventaire est encore en cours. Ça fait près de 17 ans que les conservateurs restaurateurs du laboratoire, donc déjà... font en sorte que les objets soient bien conservés, que leur état demeure stable, et ensuite on enregistre en fait tous ces objets pour finalement les stocker à Lussan et pour qu'ils soient disponibles pour les générations futures.
Ouais. Vous nous rappelez combien il y a d'objets en tout ?
Et alors il y a juste pour les céramiques, en exemple, on a 25 000 tessons de céramique qui sont sortis. Il y a à peu près 1000 vases qui ont été reconnus. Je crois qu'il y en a 130 qui ont été remontés. Et ça, c'est juste les céramiques. Si on parle d'immobilier métallique, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'objets en fait. Oui, c'est énorme. Ouais. Il y a vraiment un avant et un après Mormon pour les fouilleurs déjà d'Archéodunum, mais aussi pour le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. Ouais.
Sur le site du Mormon, en fait, seulement une centaine de vases ont été déposés entiers.
Sylvie Barrier, céramologue.
Et puis, les plus de 700 autres récipients qui ont été utilisés sur le site ont été cassés avant leur dépôt. Pour une partie d'entre eux, on a pu observer des traces de coups volontaires, qui montrent qu'ils ont été brisés avec des gestes plus ou moins violents. Et cet ensemble de gestes, associés au dépôt des vases lui-même, constitue en fait le rituel qui marque la fin de vie de ces récipients en céramique.
Ces objets, ils ont eu besoin de restauration ?
Alors, pas tous. Ça, on fait souvent le tri sur le terrain. Et c'est vrai que le Mormon, d'ailleurs, nous a permis finalement d'améliorer nos collaborations avec les équipes de fouilles qui étaient sur place, parce qu'il fallait que notre équipe de conservateurs-restaurateurs puisse intervenir très vite pour les objets les plus sensibles. Parce que quand c'est le cas, quand on sort l'objet en fait de terre, quand il apparaît à l'air alors que ça fait déjà 2000 ans qu'il est sous terre, ça pose des problèmes concernant la conservation de l'objet. Donc il faut le plâtrer pour ensuite pouvoir le restaurer en labo. Donc il y a vraiment des différentes manipulations à faire d'une manière très rapide sur le terrain pour pouvoir garantir la conservation de ces objets.
Monumental, le Mormon, avec Giulia Genechesi, directrice adjointe au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire et commissaire de l'exposition Sacré Mormon, enquête chez les Celtes.
Le site du Mormon, aujourd'hui le site archéologique, on ne voit plus rien.
Le site archéologique, non, effectivement, on ne voit plus rien. Mais il faut savoir que ça, c'est le propre de l'archéologie. Parce que quand on fouille, bon, alors bien évidemment, on documente, on enregistre, on prend des photos de ce qu'on fouille, on essaye de comprendre aussi ce qu'on fouille, mais au fur et à mesure, en fouillant nous-mêmes, eh bien, on détruit finalement ce que l'on fouille.
Il y a encore d'autres choses à découvrir sur place. On peut penser à un habitat.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on se connaît actuellement du Mormon, ce n'est qu'une toute petite partie des différents mystères, des différentes énigmes que le site nous réserve encore dans les années à venir. Ouais.
Et justement, ouais. C'est vrai que quand on parle du Mormon, on parle tout le temps de mystères, d'énigmes qui entourent ce site. C'est toujours le cas, si je vous écoute bien.
Exactement, oui, c'est toujours le cas et on se pose encore énormément de questions. Alors, on est très content d'avoir pu réaliser cette exposition parce que ça nous permet finalement de faire comme un point d'étape sur ce qu'on sait aujourd'hui en 2023, sachant que la réalité, elle peut vraiment être tellement différente dans les années à venir. On va pouvoir refaire peut-être une expo d'ici 10 ans avec des interprétations qui auront évolué du tout au tout. Et ça, c'est tellement excitant, finalement, dans le cadre de notre travail. Ça, c'est, ouais. Oui, je pense vraiment qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. La ville est peut-être juste à côté.
Est-ce que le Mormon a permis de faire tout de même progresser les connaissances des pratiques religieuses celtiques ?
Alors, je ne sais pas si le mormon, l'étude du mormon a vraiment permis de faire progresser les connaissances, parce que c'est vrai que les rituels, les fosses dans lesquelles on dépose des objets, ça reste des phénomènes qu'on connaît finalement assez bien dans le monde celtique. On connaît assez bien, même si ce n'est pas dans le cadre de grands sanctuaires celtes comme ceux dont on parlait tout à l'heure, ces fosses, on les rencontre dans les habitats. Il y a souvent des pratiques un petit peu religieuses qui viennent comme ça se glisser dans des contextes qui ne semblent pas vraiment cultuels à la base. Mais ce qui est surtout important pour le mormon, et peut-être c'est là que le site a joué un rôle crucial, c'est que ces fosses, on ne les rencontre jamais d'une manière aussi importante ailleurs. Donc peut-être que le mormon va lui-même définir un nouveau type de sanctuaire dans les années à venir. Là, encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais pourquoi
est-ce que
pas.
C'est frustrant des fois de ne pas avoir les réponses?
Ah, c'est frustrant, et puis en même temps, ça, je trouve que c'est ce qui fait vraiment le charme de notre métier. Parce que si on avait toutes les réponses, je trouve qu'on n'aurait pas d'enquête à mener. On ne serait pas aussi content d'aller travailler le matin, et je crois que c'est ce qui fait vraiment le charme. Parfois, c'est assez complexe, oui, mais en attendant, non, on est quand même très content de faire ce travail-là.
Une exposition Sacré Mormon, enquête chez les Celtes, est à voir jusqu'au mois de mars 2024. C'est au Palais de Rumine à Lausanne. Comment est née l'idée finalement de présenter au public ce site archéologique ?
On travaille en fait sur cette expo depuis déjà 2019. C'est une expo qui a d'abord été présentée au Centre archéologique européen à Bibracte. C'est vraiment une très très grande collaboration qui a réuni plusieurs acteurs. On travaille dessus donc avec Gervais Spigna, autre commissaire de l'exposition qui elle représente l'archéologie cantonale, avec Claudia Nitsou qui elle est responsable de fouilles qui représente donc Archéodenome Investigation Archéologique SA, avec tous les spécialistes qui sont intervenus sur le site du Mormon pour traiter d'un mobilier en particulier. Et cette collaboration, elle est vraiment au cœur finalement du projet du Mormon. C'est toute ces personnes-là qui ont souhaité travailler ensemble pour faire, comme je vous le disais, une espèce de point d'étape pour présenter finalement au public vaudois et d'ailleurs les différentes interprétations qu'on a aujourd'hui sur le site.
C'était important aussi d'expliquer au public ce patrimoine ?
C'était primordial. On voulait vraiment prendre les visiteurs avec nous, les emmener dans l'exposition pour leur expliquer comment est-ce que évoluait la démarche archéologique. Souvent, on a l'impression que les archéologues connaissent très bien, en fait, le site sur lequel ils interviennent, alors que sur le site du Mormon, ce n'était pas du tout le cas. C'est pour ça que la colline se prêtait particulièrement bien, finalement, à une exposition autour de l'évolution de la science archéologique, à comment est-ce qu'on interprète un site au départ et comment est-ce que cette vision, elle peut évoluer au fil du temps. Je crois qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur exemple que le Mormon pour essayer de présenter ces différentes thématiques aux visiteurs.
Et vous avez décidé de nous embarquer, nous les visiteurs, dans cette exposition. Nous sommes des espèces d'enquêteurs.
On a clairement joué sur les codes de l'enquête policière et des séries télévisées comme Les Experts à Miami. On voulait voilà que les gens se rendent compte que l'archéologie, c'est comme une enquête. Ça ne s'arrête jamais. On adore pouvoir réactualiser en fait les différentes choses qu'on a vues avec des articles de collègues, essayer de comparer nos différentes interprétations. Et c'est ce qu'on souhaitait vraiment mettre en valeur. C'est vraiment le fil rouge le plus important dans le cadre de cette expo.
Et vous avez voulu aussi que le visiteur entre dans le quotidien de l'archéologue, notamment dans son bureau, sur un chantier.
On voulait que le public comprenne comment est-ce que se déroulaient aussi bien les tout premiers préparatifs liés à la fouille que la découverte des objets, qu'enfin leur mise en valeur pour la présentation au sein de l'exposition. Vraiment toute l'histoire de la fouille archéologique du début jusqu'à l'expo. De comprendre d'une manière très simple, grâce à des procédés un petit peu immersifs qui nous semblaient assez utiles, présenter voilà au public comment est-ce que se déroule vraiment le quotidien de l'archéologue.
Alors, il y a un atelier qui a beaucoup de succès, c'est celui où on joue avec les tessons de céramique pour redonner une forme en fait à l'objet.
On a dans tout le parcours essayé de placer des postes de médiation dans lesquels chaque visiteur, peu importe son âge, peut se prendre pour un numismate, se prendre pour un céramologue. C'est vrai que la céramique connaît beaucoup de succès, notamment parce que quand vous montez, vous pouvez partir de la céramique qui a été déjà un petit peu remontée par le visiteur précédent. Ça, c'est ça marche toujours très bien. Mais ça permet donc aux gens, là, pour le coup, de vraiment rencontrer le quotidien d'un conservateur-restaurateur du laboratoire qui, eux, adorent les puzzles depuis qu'ils sont tout petits.
Et d'ailleurs, il y a un atelier de restaurateur.
Ah oui, chaque premier samedi du mois, on voulait vraiment que les visiteurs puissent rencontrer les acteurs du projet, vraiment ceux qui ont participé à l'aventure Mormon depuis le départ. Et donc, chaque premier samedi du mois, un conservateur-restaurateur vient restaurer des objets dans la salle d'expo pour discuter comme ça avec les visiteurs, avec le public qui est souvent friand en fait de ce type de rencontre.
Et on peut voir des monnaies. Que vous aimez beaucoup.
Oui, c'est ça. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui, on peut voir quelques monnaies. Oui, j'adore. La numismatique, c'est vraiment... C'est une science qui est très particulière. Parce que les objets sont petits. Donc, c'est difficile de les mettre en valeur. Et c'est toujours plus agréable d'entendre quelqu'un en parler. Et pourtant, il y a tellement d'informations qui se cachent sur une toute petite pièce de monnaie que je pourrais en parler des heures. Donc, on pourra peut-être revenir pour discuter de ça. Ouais.
On a trouvé beaucoup de monnaie sur ce site du Mormon.
Alors, on en a, de la période celtique, on en a à peu près 90, en fait. Ce qui est finalement assez peu par rapport à la faune, où là, on a, on a 220 bœufs, on a à peu près 480 animaux en tout. Voilà, 90 monnaies, c'est rien. Et finalement, on n'en a pas tellement non plus dans les fosses. Il y en a très peu qui ont été déposés vraiment dans les fosses. Ouais.
Julia Genekesi, je rappelle que vous êtes directrice adjointe au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, conservatrice en chef des monnaies et commissaire de cette exposition Sacré Mormon, enquête chez les Celtes, à voir jusqu'au mois de mars 2024. C'est juste ?
Exactement. Merci infiniment, Joanne.
Merci à vous.
Monumentale.